Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur les antennes RDIWA. Aujourd'hui, je me trouve en compagnie de Julie Kiss qui va nous parler de la méthode Feldenkrais et puis d'une série de cours que tu vas donner sur cette méthode. Alors bonjour Julie, je te laisse te présenter un petit peu.
Bonjour, Julie Kiss, je suis à la base danseuse et je me forme depuis quelques années en méthode Feldenkrais qui est une méthode de prise de conscience par le mouvement. Donc ce n'est pas de la danse. Mais c'est une sorte de méthode douce qui permet à la fois de prendre conscience de son fonctionnement et d'y travailler pour une meilleure posture et un meilleur fonctionnement global de l'individu.
Alors en deux mots, Feldenkrais, qu'est-ce que c'est? Ça vient d'où?
C'est le nom de la personne qui a inventé et mis au point cette méthode qui s'appelait Moshe Feldenkrais, qui a vécu de 1904 à 1984. Il était juif, il était neurophysiologue et il a été aussi, par exemple, un des premiers à pratiquer le judo et à introduire le judo en Europe. Et sa femme était pédiatre. Donc il s'est nourri de toutes ses connaissances pour mettre au point cette méthode. Et lui, ce qu'il a d'abord incité à ça, c'est qu'il avait un problème au genou. Et à l'époque, c'était difficile d'opérer, on ne savait pas si ça allait fonctionner ou pas. Et donc, il a décidé d'essayer de trouver comment fonctionner avec ce genou qui était blessé. Et de là a découlé toute une réflexion sur le mouvement humain et comment faire avec pour pouvoir l'améliorer.
En fait, il est parvenu à améliorer son attitude physique en inventant une méthode pour lui permettre de pallier à un handicap physique, en fait, c'est ça?
Voilà, il a appris à faire avec, en tout cas.
Ça consiste en quoi? On s'habitue à avoir mal ou alors on modifie son positionnement?
Alors, c'est le contraire de s'habituer à avoir mal. Dans la méthode Feldenkrais, au contraire, on va toujours aller vers le bien-être et un mouvement meilleur qualitativement. Et donc, dans toute pratique de Feldenkrais, on va chercher à avoir un mouvement le plus agréable possible, le plus souple possible. Donc, souvent, on part de très petits mouvements pour être au début du mouvement et pouvoir aller dans une qualité très grande du mouvement. Et c'est à partir de cette qualité-là qu'éventuellement, on va pouvoir augmenter une amplitude en n'allant jamais dans la douleur. Ce qui différencie la méthode Feldenkrais d'une thérapie habituelle, c'est qu'on ne va pas prendre ce qui va mal pour, entre guillemets, le régler, mais on va plutôt prendre ce qui fonctionne pour améliorer cette zone qui fonctionne. C'est une méthode systémique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on change quelque chose dans le système, on pense que ça va changer dans tout le système, parce que rien n'est séparé dans le corps, tout fonctionne ensemble. On va essayer d'améliorer et d'étendre ce qui va bien, pour ensuite améliorer le reste.
On part du principe que c'est des parties du corps qui sont particulièrement coincées, qu'on ne peut pas récupérer peut-être avec des méthodes plus traditionnelles, on parle de la kiné, ce genre de choses.
Peut-être qu'on peut dire que ça se complète, parce qu'en méthode Feldenkrais, on va plutôt chercher à voir comment la personne fonctionne et à travailler par rapport à un fonctionnement et par rapport à la transmission du mouvement pour que le fonctionnement se fasse mieux. Après, ça n'empêche que parfois, on va peut-être avoir besoin d'aller voir le kiné pour remettre en place une vertèbre ou, par exemple, si quelqu'un... Parce qu'il y a deux parts dans la méthode Feldenkrais. Il y a des cours de groupe où le formateur ou la personne qui dirige le cours propose un certain nombre de mouvements de façon verbale. Il n'y a pas de modèle, en fait, et chacun fait le mouvement à sa façon et parfois celui qui dirige le cours utilise même les différentes façons de fonctionner des personnes pour induire différentes possibilités et pour voir enrichir le cours.
Ce qui doit permettre assez vite de déceler aussi les personnes qui parviennent pas à faire un mouvement, non?
C'est pas forcément ce qu'on va chercher. On va chercher à faire qu'au contraire, elles aillent dans des mouvements où elles sont à l'aise. Et par exemple, quelqu'un qui est vraiment, je sais pas moi, qui peut pas bouger un bras, par exemple, pas du tout bouger un bras, eh ben on va lui proposer de faire avec le bras qu'elle peut bouger, dans l'amplitude qu'elle peut faire de façon agréable. Et éventuellement, sur l'autre bras, on va lui proposer d'imaginer le mouvement. Et là où Feldenkrais était très fort, étant donné qu'il était neurophysiologue, c'est qu'il a travaillé sur comment l'apprentissage se fait au niveau du cerveau. Et lui, il s'est intéressé à ça. Comment est-ce qu'on apprend? Il s'est rendu compte qu'en faisant parfois dans l'imaginaire, au niveau du cerveau, ça, entre guillemets, ça travaillait autant que de le faire réellement. Et en plus, si on n'a pas la douleur, ça s'intègre mieux. Voilà, donc nous, en cours de groupe, on ne va pas chercher à... Bien sûr, ça va apparaître, mais on va plutôt essayer d'aller vers les mouvements qui sont agréables et faciles. Et si, par exemple, moi, j'ai un cours où je sais que telle personne, elle a tel problème, je vais essayer de proposer des leçons qui ne lui posent pas ce problème-là ou de trouver des aménagements qui lui permettent de ne pas avoir à se confronter à ce problème-là pour que le reste s'améliore.
Tu parlais d'un deuxième volet.
Ça, le premier volet, c'est ce qu'on appelle PCM, prise de conscience par le mouvement. Et le deuxième volet, c'est ce qu'on appelle des IF, c'est des intégrations fonctionnelles. Et ça, c'est des sortes de séances individuelles où c'est le praticien Feldenkrais qui va, entre guillemets, manipuler la personne pour l'amener dans différents mouvements et par cette séance, essayer de lui apprendre aussi quelque chose sur le sur son fonctionnement.
Alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple très concret d'un cas de figure, d'un blocage particulier physique et de la manière dont on peut le traiter ? Parce que ce que j'arrive pas bien à comprendre, c'est que bon, je prends mon expérience, je peux parvenir à me bloquer un peu la hanche. Bon, au bout d'un moment, quand c'est trop douloureux, je vais chez l'ostéopathe, clac clac, et je repars. L'ostéopathe souvent dit : tu n'as pas eu mal pendant un certain temps puisque ton corps a pris lui-même une position pour aller contre la douleur. Enfin voilà, ça me fait penser aussi à ça. Et qu'est-ce qui se passe ? Alors, tu induis, tu montres des positions pour éviter cette douleur, ou est-ce qu'à un moment donné, il y a quand même une réparation ?
Bon, par exemple, t'as mal à la hanche droite. Donc déjà, moi, je vais travailler sur la hanche gauche. Et mon but, dans un premier temps, c'est peut-être de te faire sentir vraiment l'emplacement de la hanche, comment ça peut bouger dans la hanche de façon très fine. Et déjà, ça, pour toi, dans ton cerveau, il va se passer quelque chose qui va faire que ça va s'intégrer du côté où tu as mal. Donc déjà, tu auras un autre fonctionnement parce que tu auras intégré une connaissance de ton articulation de la hanche que tu n'avais pas jusque-là. Ensuite, souvent, quand on a mal à une articulation, le problème, il n'est pas que là. Il est aussi parce que le mouvement ne passe pas bien plus bas ou plus haut, que ça se bloque à cet endroit-là. C'est comme des forces contraires et qu'à un moment donné, il y a un point central où ça se bloque. Donc, je vais aussi essayer de voir, est-ce que ça bouge moins bien ? Qu'est-ce qui se passe dans ton genou ? Qu'est-ce qui se passe dans ta cheville ? Qu'est-ce qui se passe dans ton pied ? Qu'est-ce qui se passe dans ton bas du dos, dans ton bassin ? Comment ton bassin bouge ? Et peut-être que je vais remarquer qu'au niveau du bas du dos, il y a quelque chose qui est différent et qu'on va essayer de trouver une façon de faire passer le mouvement qui va faire que ça va plus se bloquer dans ta hanche. Ou bien, peut-être que, suivant ton travail, je vais me dire « Ah, mais il fait beaucoup ce mouvement, par exemple. » Et donc, c'est ce mouvement aussi qui fait qu'il a mal dans sa hanche droite. Donc, comment est-ce qu'il pourrait faire différemment ce mouvement pour éviter cette douleur dans la hanche? Alors, quelqu'un qui est beaucoup assis, peut-être qu'on travaillera sur la position assise. Il y a beaucoup de gens qui sont mal assis. Il y a beaucoup de gens qui se baissent mal, qui portent mal, qui se tournent mal parce qu'ils utilisent mal différents niveaux de leur structure qui font qu'ils s'abîment plus à des endroits.
L'ostéopathe, en général, arrive aussi à nous dire d'où ça vient. Là, le principe, c'est bien de prendre conscience, en fait, des différentes parties de son corps.
L'apprentissage de fait par la personne. Alors, parfois, l'apprentissage, il est verbalisé, c'est-à-dire que je vais pouvoir te dire, regarde comment tu peux faire le mouvement différemment. Est-ce que tu sens la différence entre ce mouvement que tu fais maintenant en fin de séance et ta façon habituelle de le faire? Et là, je vais te poser les mots dessus et te vraiment amener ta conscience dessus. Et parfois, c'est pas la peine. Le système lui-même, par ce qui s'est passé dans la séance, il est capable d'intégrer des apprentissages.
On imagine que c'est quand même, on va dire, un suivi assez long, puisqu'il y a des personnes qui mettent plus de temps à mentaliser un certain nombre de choses. Et pareil, là, j'entends un petit peu aussi une prise d'habitude. Par les séances, on s'habitue à prendre des positions, comme on s'habitue assez vite à prendre des positions minables dans les situations de travail, par exemple.
Des fois, ça peut être très rapide. En séance individuelle, parfois, il va suffire d'une séance pour régler un problème. Ça n'a pas forcément besoin d'être mentalisé. Ça peut l'être, c'est-à-dire que je peux mettre le doigt dessus et puis toi, après, dans ta vie de tous les jours, tu devras au début, effectivement, faire attention à la façon dont tu fais les choses pour changer tes habitudes. Mais parfois pas, parfois juste la séance, elle a provoqué un changement. Alors des fois, c'est déstabilisant, des fois, on a un peu des repères qui changent sur des appuis, sur Et ça se fait tout seul. Ça dépend vraiment des fois. Après, en ce qui concerne les cours, les PCM, donc les cours de groupe, c'est vrai que c'est plus intéressant dans un suivi parce que la méthode Feldenkrais, elle questionne les habitudes, effectivement. C'est-à-dire que le premier aspect, ça va être de prendre conscience de son fonctionnement. Et là, déjà, il y a un questionnement de l'habitude. Et cette habitude-là, est-ce que je peux la changer ? Donc, dans les leçons, on va proposer des variations de mouvements. Par exemple, ça peut être très simple. Ça peut être, par exemple, avancer un petit peu l'épaule et revenir à sa place. Et observer comment est-ce qu'on respire avec le mouvement. Juste ça, par exemple. Et ça, est-ce que c'est possible de respirer différemment ? Et déjà là, dans le cerveau, il se passe quelque chose dans la connexion de synapses qu'on n'a pas l'habitude de mettre, d'utiliser. Et Moshe Feldenkrais, il disait que tous ces fonctionnements-là, on les avait eus. C'est pas des choses qu'on découvre, c'est des choses qu'on a déjà eues enfant, par exemple, ou bébé, et juste qu'on va redécouvrir. Et ça va nous permettre d'avoir plus de réponses possibles dans la vie de tous les jours. Du coup, une meilleure utilisation, quelque chose de plus souple. Et c'est aussi pour ça que c'est une méthode qui intéresse beaucoup, souvent, tous les gens qui sont dans les milieux artistiques. En France en particulier, il y a beaucoup de danseurs, de comédiens, de circassiens, de chanteurs, etc., qui font ça parce que ça ouvre aussi sur un potentiel créatif. Parce que d'interroger les habitudes, d'ouvrir ces habitudes-là, après, en dehors de la leçon, ça va ouvrir sur une attitude plus créative.
Je propose que nous marquions une petite pause musicale. Et puisque nous réfléchissions sur la place que prennent nos habitudes dans nos vies et leur impact sur notre mental et notre physique, nous allons écouter un morceau de Carimouche, chanteuse française un peu déjantée et qui questionne elle aussi nos habitudes avec le titre « Emballage d'origine », extrait de son album du même nom.
J'étais chez moi. Ah, j'étais chez moi, tranquille au paddock, devant la télé par câble avec mon amant Armand. On se regardait les nouvelles, le monde se disloque. Famine, pauvreté, un monde qui fout le camp. Sida, herpès, le Proche-Orient, affaissant. Le cravaté de la télé, boniment, argumente. Index, grand arnaque, contre-fil du toc. Le grand cul te croque ton fric, alors fais gaffe, ouvre l'œil, ils sont à bloc. Hey, tu devrais examiner cette saucisse avant de la croquer. Et pendant que tu y regardes ce qu'il y a dans le beignet, assure-toi que la cam est dans l'emballage d'origine. Hey, hey, oh, on a repêché un noyé, les poignets menottés. Mais le flic n'a rien vu, ses menottes ont disparu. La guerre n'est pas finie, il paraît à ce qu'on dit. L'ignoble tétractus a envahi la ville. Le bébé, assis devant MTV, voit des fantasmes de violence. C'est classique, banal, le monde tourne toujours dans le même sens. Pendant que papa siffle une bière devant son équipe préférée et s'aperçoit peu de temps après que ses rôles sont tous drogués. Politique de la haine dans un nouveau quartier. Haine contre les bons, haine contre les mauvais. Et si tous même temps pas cinglés, je garde la tienne, la mienne, non, rien de divin, rien de sacré. Hey, tu devrais examiner cette saucisse avant de la croquer. Et pendant que tu y regardes ce qu'il y a dans le beignet, assure-toi que la cam est dans l'emballage d'origine. Hey, tu devrais examiner cette saucisse avant de la croquer. Et pendant que tu y regardes ce qu'il y a dans le beignet, assure-toi que la cam est dans l'emballage d'origine. Hey, ne me prends pas pour une crétine de l'arbine, car l'assassin vit et les victimes meurent. Moi je vois ça plutôt œil pour œil, cœur pour cœur, cerveau pour cerveau. Et si tout cela me trompe en marteau, je prendrai le tempo. Je gueulerai dans mon micro face à la foule pour dire: je veux pas être sentencieuse, mais la vie m'a rendue un peu nerveuse, un peu hargneuse et triste. Alors salutations, je m'agite sur un rythme bidon. Oh popato, comment allez-vous? Hip hop du bop, c'est comment qu'on stoppe, ça sent le flop en drop. Hey, tu devrais examiner cette saucisse avant de la croquer. Et pendant que tu y regardes ce qu'il y a dans le beignet, assure-toi que la cam est dans l'emballage d'origine. Tu devrais examiner cette saucisse avant de la croquer. Et pendant que tu y regardes ce qu'il y a dans le beignet, assure-toi que la cam est dans l'emballage d'origine. Hey, tu devrais examiner cette saucisse avant de la croquer. Et pendant que tu y regardes ce qu'il y a dans le beignet, assure-toi que la cam est dans l'emballage d'origine. Hey, tu devrais examiner cette saucisse avant de la croquer. Et pendant que tu y regardes ce qu'il y a dans le beignet, assure-toi que la cam est dans l'emballage d'origine.
Mouche et emballage d'origine sur RDIWA. Je suis toujours en compagnie de Julie Kiss pour parler de la méthode Feldenkrais et reprenons le vif du sujet. Est-ce qu'on peut parler de soigner ?
Donc en méthode Feldenkrais, on évite de parler de soigner parce qu'on ne part pas du mal, mais on part plutôt de ce qui fonctionne. Voilà.
Ça s'apprend où cette méthode ? Je veux dire, tu as quelques années d'études là.
En fait, il y a 4 ans de formation. C'est une assez longue formation, assez intensive, on va dire. Et actuellement, il y a 2 écoles en France, une à Paris qui s'appelle Accord Mobile où moi j'ai fait la formation, et une à Lyon, enfin sur Lyon et Avignon. Voilà, en France, c'est les 2 écoles agréées parce qu'en fait, il y a tout un système qui fonctionne mondialement, ce qui s'appelle Feldenkrais International. Et donc nous, en formation, par exemple, on a des gens, des spécialistes qui viennent d'Australie, des États-Unis, du Canada, d'Israël, qui ont différentes spécialités et qui nous apportent différents éléments.
Et est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu es venue à ça, comment on découvre cette méthode ? Parce que moi, c'est la première fois que j'en entends parler. Hein.
Moi, c'était dans une école de danse où j'en ai fait un tout petit peu et j'ai tout de suite trouvé ça extraordinaire parce que, bon... Le long terme, c'est bien, mais souvent, une leçon de Feldenkrais, ça a créé des changements. En fait, c'était sa réflexion, c'était pour que le cerveau apprenne, pour apprendre, il faut sentir des différences. On revient à cette question de l'habitude. Et donc, chaque leçon est construite de manière à faire sentir à ceux qui les font des différences de sensations en particulier. Et donc, une seule leçon, des fois, eh ben, on en sort, on est différent. On a des sensations qu'on n'a pas habituellement. Et donc, j'ai tout de suite trouvé ça génial. En plus, il y a vraiment une notion de liberté individuelle et de non-effort qui sont, pour moi, fondamentales et qui me touchent beaucoup. La liberté individuelle, parce que c'est à chacun, déjà, il n'y a pas de modèle, et c'est à chacun de, par exemple, sentir ses limites, sentir quand la qualité du mouvement va changer. Et à quel moment c'est pas la peine d'aller plus loin, en fait. Et ça, dans notre société où on apprend qu'il faut toujours faire plus, toujours plus grand, eh ben, c'est un grand apprentissage. Et c'est très difficile, moi, j'ai trouvé au début, de se dire, OK, je ne fais que ça. Et mon mouvement, là, il va avoir une qualité, entre guillemets, parfaite. Et c'est ça qui est intéressant. Et de faire plus grand, c'est pas intéressant. Et ça change tellement par rapport à ce qu'on apprend partout que c'est fondamental, quoi. Et que c'est pas évident, je trouve.
Tu parles d'effort, justement. Mais alors, c'est complètement à l'inverse de nos sociétés actuelles. Et justement, il y a une partie de nos tâches journalières qui sont faites aussi par habitude, mais qui sont aussi assimilées à la notion d'effort. On est un peu obligé de les faire parce que on a un certain nombre de règles à tenir, etc. Et là, ça re-questionne tout ça, quoi. On peut sortir un peu changé aussi après une seule séance et devenir anarchiste, quoi.
Je sais pas si on est anarchiste après une seule séance. Mais voilà, c'est vrai que ça permet de questionner après pas mal de choses. Mais ça touche aussi à la question de responsabilité. On est responsable de soi pour soi. Et après, la question d'effort, elle est toute relative. Parce que si on fait un effort et qu'on se blesse là-dedans ou qu'on blesse l'autre, c'est différent d'un effort qu'on fait parce qu'on sait que d'un point de vue de la famille ou de la société ou d'une certaine structure, bah cet effort, il est nécessaire. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Et c'est pas du tout le même genre d'effort, en fait. Voilà, c'est pas que je vais arrêter de faire tout ce qui m'ennuie, parce que c'est un effort et que non. Parce qu'il y a des choses qui m'ennuient, mais je sais que si je veux que ça roule pour moi, enfin, que les choses se fassent, je suis obligée d'assumer ma part de cet effort-là. Mais après, c'est l'effort qui fait mal, quoi, où je vais plus loin que mes limites. Pour moi, c'est 2 notions un peu différentes.
Je voulais revenir un tout petit peu aussi sur cette notion d'habitude parce que on se rend compte, passé un certain âge, on est arrivé dans des schémas qui sont sortis de ce qui pouvait être vécu pendant l'enfance et qu'il est extrêmement compliqué de revenir pour certaines personnes, hein, quand j'entends de revenir justement dans des habitudes différentes. Les habitudes sont tellement ancrées, même les positionnements, que physiquement parfois c'est quasi irréversible. Alors, est-ce qu'il y a aussi un espoir là-dessus?
Alors c'est pas du tout irréversible. Oui. Alors il y a une notion de jeu qui est très importante dans la méthode Feldenkrais. Chaque variation de mouvement qui est proposée, c'est comme un jeu pour soi-même. Et cette notion de jeu, elle est importante parce qu'elle permet permet d'intégrer beaucoup plus les choses. Ça s'intègre mieux si c'est vécu comme un jeu. C'est une méthode qui peut s'utiliser à tout âge, qui s'utilise beaucoup pour les personnes âgées. En fait, bon, les gens qui pratiquent ça, souvent après, ils se spécialisent parce que ça peut s'utiliser par rapport à plein de choses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de pratiques artistiques, avec des sportifs, par exemple, pour leur permettre de moins s'user, de moins se faire mal. Ça peut s'utiliser dans le monde du travail, comme un peu de l'ergonomie ou voilà, apprendre aux gens, par exemple, à bien être assis, à bien positionner leurs mains quand ils tiennent la souris de leur ordinateur, etc. Ça peut être utilisé avec les personnes âgées. Et il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans.
Au-delà même des personnes âgées, je suis peut-être allée un peu fort, mais...
En fait, c'est jamais irréversible. Le système osseux, il s'améliore à tout âge. Il y a des manières de le rendre plus vivant et qui continue à être vivant et flexible plus longtemps. Chez Feldenkrais, il avait aussi une phrase qui est un peu connue qui disait « Je cherche pas à avoir des corps souples, mais des cerveaux souples. » C'est-à-dire que ça se joue pas que au niveau corporel et de la façon dont on se tient, dont les muscles fonctionnent, mais ça se joue au niveau neuronal et de la plastique neuronale. Ça, tant que ça reste vivant et souple et dans une attitude de jeu et de découverte, ben l'amélioration, elle est toujours possible, en fait.
Tu vas me permettre de mieux m'exprimer. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des habitudes de vie. Par exemple, on peut prendre quelqu'un qui a pris l'habitude de systématiquement manger le soir devant sa télé dans un fauteuil sur sa table basse.
Celui-là, il va pas venir.
Imaginons que cette personne ait envie de venir et que c'est presque devenu, voilà, c'est sa manière de faire et que donc là, il va falloir aussi travailler dans sa psychologie un petit peu. Quelque part, toucher du doigt aussi cette manière de fonctionner pour parvenir à régler son problème douloureux dans la mesure où il serait venu parce qu'il a trop mal ou qu'il a envie de changer de position. Mais que là, il doit vraiment modifier, c'est plus le travail, mais c'est bien sa manière de fonctionner, lui, qui pose problème en fait.
Alors... Déjà, s'il vient, c'est qu'il a une attitude d'évolution. On ne change pas les gens, c'est eux qui changent eux-mêmes. Et donc, lui, si petit à petit, il apprend à mieux sentir ce qui lui fait mal, par exemple, juste déjà ça, je parlais de l'amplitude du mouvement et de ne pas en faire trop, mais il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte du moment où ils commencent à en faire trop, même à avoir mal, mais des fois même il y a un stade antérieur où juste on commence à sentir que la qualité change. Mais la plupart des gens, je dirais, ils ne se rendent pas compte de ça. Quand est-ce que ça commence à être douloureux? Quand est-ce que, pour moi, cette position, elle ne me va pas? Donc si petit à petit, il apprend à être à l'écoute de ça, de ses sensations, à sentir aussi comment il peut se sentir bien, tout simplement, parce que ça aussi, peut-être pour certaines personnes, c'est juste devenu quelque chose qui n'arrive plus, quoi. Donc si cette sensation, elle peut revenir en eux, j'imagine qu'aussi de lui-même, il va se dire, il va changer. Il aura appris à sentir... Ah ben tiens, là, quand je me relève de mon fauteuil, j'ai mal au bas du dos. Ou oh là là, quand je mange comme ça tout avachi, je suis ballonnée. Et puis, que s'il apprend à connaître ça et puis à connaître des réponses possibles, eh ben, peut-être le changement, il va le créer lui-même.
Est-ce que, par exemple, on peut imaginer que cette méthode puisse être induite ou serve de formation à un certain nombre d'entreprises, à un certain nombre de métiers de bureau, etc.?
Bah, ça se fait. Il y a des gens qui interviennent en entreprise. Après, vous trouvez les entreprises intéressées. Hein. Et puis, ce n'est pas forcément la peine de travailler une année, par exemple, dans une entreprise. Parfois, il suffit de 2 ou 3 séances pour vraiment leur faire travailler sur les positions qu'ils prennent dans leur travail. Et puis, c'est de l'intégration fonctionnelle. Donc, il y a toujours une fonction derrière. Donc, si on sait la fonction, après, on travaille sur cette fonction. Et puis, parfois, ça peut être relativement rapide. Et oui, ça se fait.
Alors, toi qui es installé à Barnave, dans le Diwa, qu'est-ce que tu nous proposes ici et maintenant?
Alors là, pour l'instant, c'est un cours hebdomadaire que je lance par l'espace social. Le mardi, de 12h30 à 13h30, dans la salle de danse du nouveau gymnase. Et je pense faire quelques stages dans l'année.
Ces cours, le mardi, c'est donc les PCM, c'est ça?
Voilà, c'est ça. C'est des cours collectifs.
On peut aussi demander des cours particuliers.
Ouais, pour l'instant, ça, je le pratique de façon assez informelle.
Et si des entreprises sont intéressées, elles peuvent faire appel à toi?
Tout à fait.
Tu avais quelque chose à rajouter? Des numéros de téléphone, un contact peut-être?
Alors, pour s'inscrire, c'est auprès de l'espace social. Donc, le numéro de téléphone, je prends ma petite fiche, c'est 04 75 22 20 45. Il y a un contact mail qui est contact@escdd. escdd.fr, escdd.fr.
Et alors au niveau des tarifs ?
C'est lié au quotient familial, donc il y a 5 tarifs différents, donc il faut y passer. C'est ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi, il me semble, de 14h à 18h et le mercredi matin. C'est pas très cher, hein, l'espace social, c'est abordable, je pense, pour tout le monde.
Tu nous avais dit que ça n'a pas encore commencé, c'est ça ?
Ça commence le mardi 28.
Bah, merci beaucoup, Julie.
Merci.